Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi. Les grandes gueules du sport.
Dupont à hauteur pour un bail. Allez, bail. Est-ce que c'est
de bail. Essai de Cyril Bail.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Toujours très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end de folie. Alors celui-là, il ne faut absolument pas le rater, les grandes gueules du sport, mais toute la journée sur RMC, c'est l'événement, vous le savez, à 15h15. Irlande-France, c'est la finale du tournoi Destination et forcément nous allons parler et en parler en long, en large et en travers. Bon réveil à tous, très heureux de vous retrouver ce matin et merci infiniment de votre fidélité. Au sommaire aujourd'hui, donc Irlande-France. Cette finale du tournoi des Destinations, est-ce un tournant dans l'histoire de cette équipe? C'est la une des GG, donc dans quelques instants. À 10h, on reviendra sur la lourde sanction de Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lyon, interdit de banc de touche pendant 9 mois, de vestiaire pendant 7 mois. Peut-on encore entraîner dans ces conditions? Ce sera le bras de fer des GG et ce sera, je vous l'annonce, un 2 contre 2. Et puis 11h, on reparlera d'Irlande-France et de cette sortie inattendue de Fabien Galthié sur l'arbitrage avant la rencontre. A-t-il raison de mettre la pression sur les arbitres, ce sera notre question. Les grandes gueules du sport ce matin, une très très belle équipe, je vous les présente tout de suite. Une grande gueule qui, contrairement à Paulo Fonseca, le seul contre-tête qu'il ait fait, c'était face à une girafe. Fred Veil, salut Fred.
Salut, ça va?
T'as gagné ou pas?
Évidemment. C'est un coup plus court, c'est pour ça que j'ai plus de force.
Ah, c'est au niveau du coup. Ça se joue, j'imagine. Ça va mon Fred?
Ça va très bien.
Ouais, t'as envie de parler de rugby?
Toujours.
T'es devenu spécialiste quelque part.
Honnêtement, alors vraiment, tous mes amis commencent à me parler de rugby. Ils me disent, mais maintenant tu comprends enfin rugby? J'ai dit, ah non, je comprends pas, mais j'ai des Philippe Saint-André qui m'expliquent et je progresse.
Et pour une fois, il n'y a pas Christophe Cessieux qui te dira, tu connais rien, tu connais que le basket.
Voilà. On attend quand même Philippe.
On attend peut-être que. Exactement, on embrasse évidemment Christophe Cessieux qui est actuellement dans son lit, tranquillement. Il est dans l'avion. Il part à Dublin, voilà, pour commenter la rencontre. Eh ben oui, privilège extraordinaire. On va mettre le micro pour Marc Madiot. Non, c'est celui qui est à côté. Voilà, vas-y Marc.
C'est bon.
Oui, il part pas la veille. Ah non, mais on a plus les moyens de faire partir les gens la veille.
Partir la veille, le match et
la
soirée après le match et le retour le lendemain.
Ah oui, non, mais ça c'était dans les années 90 ça.
Ah ouais.
Maintenant, on t'envoie rapide, tu commentes le match, t'as un taxi moto qui t'attend, tu vas à l'aéroport, tu reviens très vite et voilà.
Il faut une place senior pour Christophe avec accompagnement, tout ça.
Ouais, ça coûte cher. Ça.
Et ouais, c'est des frais en plus.
Ouais. Ah ouais. Donc on est obligé d'équilibrer les comptes. Bref, voilà. Bah vous l'avez entendu, je vous le présente tout de suite. Une grande gueule qui, contrairement à Paulo Fonseca, elle a jamais été privée de banc, mais il a déjà été privé de seringue. Marc Madiot, ça
Marc. D'entrée.
Je sais que tu fais réagir à chaque fois. Ça va, Marc?
Pas mal.
Ouais. T'as envie là de cette Irlande-France là, t'as envie de croquer dedans?
Alors, j'ai envie de croquer dedans et je vais mettre la pression.
Ah. Alors attends, garde tes billes, tu vas mettre la pression, j'aime quand il y a un peu de teasing. Une grande gueule qui, comme Paulo Fonseca, il va pas faire grand-chose les 7 prochains mois, c'est Simon Dutin. Salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde. Bah, j'espère qu'on va pas m'interdire le banc de RMC quand même.
Jamais.
Je suis pas interdit de banc, j'espère. Bon.
Jamais. Déjà, t'es très content parfois d'être sur le banc, même si de
temps en temps
titulaire, c'est mieux.
C'est déjà un privilège, en effet. Et puis moi, j'ai jamais fait de front contre front avec l'arbitre.
Oui. Ni avec Christophe Cessieux.
Non,
mais ça, tu es autorisé.
Non, mais je veux pas d'envie, c'est pour ça.
Tu es autorisé, on va te retrouver régulièrement durant le mois de mars. Très heureux de te retrouver, Simon. Et puis une grande gueule qui, comme Paul, au fond de ses cas, se demande si c'est pas mieux quand il reste en tribune. Philippe Saint-André, salut Philippe.
T'es en grande forme, tu sais, ouais. Par contre, pour revenir sur Christophe Cessieux, les stars comme Denis Charvet partent la veille, et puis les porteurs de valises, eux, il a pris l'avion ce matin.
Tu les connais, les grouillots, exactement, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ça va, mon Philippe?
Très bien, en pleine forme.
Alors vraiment, je dis à chaque fois très heureux, mais là, pour le coup, tu viens pas souvent dans les grandes gueules du sport, on va profiter de toi et de tes lumières tout le week-end, donc c'est un vrai plaisir, mon cher Philippe. Voilà. Même si je t'ai mis un petit coup de rap pour commencer, ouais, mais ça, c'est le jeu, hein, vous le savez.
On va en parler tout à l'heure, quand même, de cet entraîneur.
Exactement. Événement dans les grandes gueules du sport ce week-end, vous allez pouvoir remporter vos places pour le match de clôture du tournoi Destination. C'est pas pour Irlande-France, évidemment, sinon il faudrait se dépêcher. C'est pour France-Écosse, samedi prochain. C'est à 21h au Stade de France pour remporter vos deux places. Vous envoyez dès maintenant rugby au 7-32-16, rugby au 7-32-16, et vous allez pouvoir remporter vos places. Donc pour ce France-Écosse, allez, on débute cette émission avec cette citation d'Orelsan qui a dit un jour, l'histoire s'écrit en tournant les pages.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Le grand défi de l'équipe de France, faire tomber l'Irlande. La percée de Keenan, peut-être sur l'extérieur. Il va y aller.
C'est le train-train, la routine. Ça t'impressionne plus, hein, ça.
On s'en sort miraculeusement, la percée de Penaud. Il est parti.
C'est trop de pression, votre trimestre à l'essai, tout.
Ça tape côté irlandais, ça fait très très mal. Dans les manomètres à nouveau, Crowley pour un hauteur, pour l'essai certainement. De Tagmer, il est magnifique, cet essai incroyable. Le coup de poignard dans la défense française.
Vous avez l'air un peu tendu.
Le raffut de Rigros, il va l'essai. Quel essai de Rigros sur ce raffut. Il a tué la défense française sur le coup.
Lorsqu'on se jette à l'eau, il vaut mieux être détendu.
C'est terminé. Victoire de l'Irlande. Beaucoup d'impuissance ce soir pour l'équipe de France qui a pris quasiment une raclée contre l'Irlande.
Oui, mais ça, c'était il y a un an, évidemment. 15h15, aujourd'hui, c'est l'événement Irlande-France, quatrième journée du tournoi destination. Les Bleus n'ont pas le choix. S'ils veulent remporter le tournoi, il faut absolument s'imposer à Dublin, sinon le 15 de France repartira sans titre encore une fois cette année. La musique qui fout les jetons et cette question. Est-ce un tournant dans l'histoire de cette équipe? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Marc Madiot?
Oui.
Philippe Saint-André?
Oui, surtout si elle gagne.
Fred Weiss.
Oh là, tu commences déjà à mettre des trucs.
Non. Mais vous êtes dans le même camp, les copains.
J'ai deux, c'est magnifique.
J'ai deux noms. Avant de débattre, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux à Dublin, Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut JC, bonjour DG.
Déjà, une première question très importante. Tu me confirmes, Christophe Session n'est toujours pas arrivé.
Non, il arrive dans la matinée. On l'attend de pied ferme. On prépare le terrain pour lui. On lui installe les câbles, le casque dans le stade. Et puis comme ça, il vient. Il a juste à s'asseoir et à briller.
Oh, c'est beau ça. Bravo. C'est ça, RMC. Hein. Alors, l'autre question, peut-être plus importante. Est-ce que les Bleus se considèrent-ils à un tournant?
Vous vous en doutez, c'est compliqué de leur faire dire que ce match est le plus important de l'année, qu'un nouvel échec dans le tournoi de destination serait catastrophique. Malgré tout, après 4 secondes place en 5 ans, le troisième ligne Greg Aldrit a envie de retrouver la victoire dans le tournoi.
Pour être honnête avec toi, enfin, que ça soit l'Irlande ou pas l'Irlande, on s'en fout, c'est juste qu'en soi, si on peut éviter de faire 6 fois second, c'est surtout ça qui nous anime et qui nous motive, quoi. Donc, maintenant, c'est surtout nous qui devons élever nos standards, nous mettre notre niveau là-haut et pour enfin gagner un tournoi.
Il manque surtout des matchs références à cette équipe de France qui est globalement dominante mais battue la plupart du temps dans les rencontres à enjeu, à Twickenham face à l'Angleterre en février, l'an dernier à Marseille contre l'Irlande ou bien sûr en 2023 contre l'Afrique du Sud. Toute la semaine à Marcoussis, on a senti quand même que ce match était très important, plus de tension à l'entraînement, on nous a dit à plusieurs reprises de ne pas filmer les lancements de jeu, ne pas filmer les touches, et puis il y avait une intensité et une concentration qu'on ne voit que dans ces semaines de grands matchs. Mais Fabien Galthié est catégorique, cette rencontre n'est pas un tournant, en tout cas, il ne remettra pas tout en question en cas de défaite.
Ça changera rien. Quoi qu'il arrive, ça changera rien sur notre vision. Nous, on a une vision qui est vraiment construite, structurée, sur la sélection, sur l'émulation des joueurs, sur le développement des joueurs. Maintenant, depuis 6 ans, nous prenons les joueurs, nous les développons, nous amenons à leur meilleur potentiel. Non, ça ne changera rien. Et bien sûr, ce qui nous plaît, nous, c'est ce défi. Mais vous parlez déjà des conséquences de match, alors qu'on n'a pas encore joué ce match. Donc, jouons ce match avec plaisir, avec joie, avec liberté et avec ambition. Et puis après, on commentera la suite, si vous voulez bien.
Avec cette déclaration, en mettant à la fois le travail réalisé et la vision vers 2027 en avant, Fabien Galthié se protège également son groupe, mais il serait bien inspiré de mener les Bleus à la victoire cet après-midi, car en cas de nouveau revers, les Bleus ne pourront sans doute pas espérer mieux qu'une troisième place à nouveau décevante.
Merci beaucoup Pierre Thévenet pour ces précisions en direct de Dublin. Évidemment, tu restes avec nous pour ce débat. Est-ce un tournant dans l'histoire de cette équipe? Vous avez entendu Fabien Galthié en conférence de presse, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je vais commencer avec quelqu'un qui a envie de rentrer dans ce débat. Ça se sent, ça s'est senti à son oui. C'est Marc Madiot. Pourquoi oui? Pourquoi les Bleus sont un tournant?
Pourquoi oui? Tout simplement parce que le Stradivarius, ça va 5 minutes. Je pense que Galthié a fait option violon quand il était jeune étudiant. L'heure est à la vérité. Et à force de repousser les séances, on se perd en route. On ne sait plus où on va et on n'est plus en adéquation avec ce qu'on recherche. Pendant longtemps, je pense que l'équipe de France est construite. Il y a eu une Coupe du Monde qui a eu les résultats que l'on connaît. On est reparti sur des tournois comme on le voit aujourd'hui. Et si aujourd'hui, on ne fait pas de ce match un tournant, on va dans le mur. on va dans le mur. C'est-à-dire que si on pardonne encore quelque part ou on trouve des excuses à une défaite face à l'Irlande, on s'enfonce. Et on n'est plus sur le bon chemin. Si on veut aller dans la bonne direction, si on veut être champion du monde dans pas longtemps, il faut gagner cet après-midi. Il faut mettre la pression. Parce que là, on va encore parler, on va discuter, on va baratiner. Mais si on baratine, on ne gagne pas. Et aujourd'hui, il faut gagner, point barre.
C'est fort hein, ce que dit Marc. Je sens que vous voulez répondre déjà. Simon Dutin.
Il y a une différence entre un tournant pour cette équipe, un tournant pour Galtier. Je pense que la courbe de progression derrière laquelle se protège Fabien Galtier, elle s'est brisée avec l'échec en Coupe du Monde. Et depuis, on sent un sélectionneur, bien que je le défende encore ces derniers mois, qui cherche. Et je pense pas qu'on puisse exiger d'un 15 de France, quel que soit son niveau supposé, de remporter le tournoi les années impaires quand tu vas jouer à Twickenham et à la Viva. Cette Irlande, elle est également en reconstruction. Elle a malgré tout beaucoup plus de certitude que nous, même si elle a perdu le top dog, le taulier, Johnny Sexton. Bon, il y a, je pense que si on n'est pas plus bête que les autres, il va falloir enfoncer leur nouveau numéro 10 et le viser cet après-midi. Donc, peut-être qu'on va gagner. Est-ce que si on gagne, ce sera un vrai tournant? Non, je pense que tu vois, tu t'as...
Ah, si on gagne ou si on perd, ça change rien. Donc,
je pense pas, parce que ton diplôme en baratineur aujourd'hui.
Ah, bah écoute, il l'a depuis longtemps.
C'est vrai qu'il l'a depuis longtemps. Pour bosser ici, je sais pas comment t'as fait pour rentrer. Moi, j'ai dû le montrer. Non, je pense que cette équipe, de toute façon, elle continuera de se construire avec ou sans Fabien Galtier, et qu'il n'y a pas de tournant aujourd'hui. Si tu perds, ça dépend évidemment si t'en prends 50 et que t'es inexistant. Mais je pense qu'il y a des choses plus importante à régler, et moi il y a des choses plus qui m'inquiètent un peu plus que le résultat face à l'Irlande, et notamment la gestion d'un effectif. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je suis tombé de l'échelle quand j'ai entendu la justification de la titularisation de Damien Penaud. Galtier nous l'a vendu aujourd'hui comme si c'était un petit jeune. Il nous a parlé d'un mec qui a un potentiel certain. J'ai été affligé. J'espère qu'on y reviendra. Donc non, cette équipe, je pense que il y aurait rien de déshonorant à perdre en Irlande. Voilà, ce serait pas les premiers, ce sera pas la dernière fois.
Ok, c'est pas un tournant. Fred, tu vas évidemment pouvoir répondre aussi à Marc Madio. Je sais que tu veux lui répondre. Philippe Saint-André.
Mais je pense pour moi que ce match est très important. Pourquoi? Parce que on a une équipe de France qui arrive à maturité maintenant. On a des joueurs qui ont 50, 60 sélections. Ils ont du vécu ensemble, pratiquement 6 saisons. Ramos, Dupont, Kroos l'ont annoncé avant le 6 Nations. On veut gagner ce tournoi des 6 Nations. C'est bien d'avoir 80% de victoires, mais maintenant, on veut des trophées. Et à 2 ans de la Coupe du Monde, c'est important de gagner un match référence à l'extérieur. On a perdu à Twickenham sur un match qui était imperdable. Imperdable. On fait 30 en avant, on a 4 occasions d'essai, on fait en avant sur la dernière passe, on doit mener de 25-30 points à la mi-temps.
On a grillé la cartouche.
Donc,
ce que tu veux nous dire.
On a grillé la cartouche, mais on peut toujours gagner ce tournoi.
Ouais, mais Philippe, si on gagne cet après-midi, on n'a pas l'assurance de gagner le tournoi non plus.
Ouais, après, il faut gagner l'Écosse à domicile. Mais bon, ça, on a un match important. On a des joueurs qui arrivent à maturité. On a un groupe qui arrive à maturité. Ces mecs-là gagnent en club de partout. Les Toulousains, champions d'Europe, champions de France. Les mecs de La Rochelle, champions d'Europe 2 fois. Bordeaux est en train de dominer la Coupe d'Europe. Donc, on n'a rien à envier à ces joueurs. En plus, vous avez parlé de les Irlandais, quand même, sans Sexton, Prendergast, c'est pas l'assurance touriste, il loupe énormément de plaquages. Dans sa zone, il plaque pas énormément, il a pas une très bonne réussite au pied. Donc, c'est des Irlandais qui continuent à gagner, mais ils dominent pas comme ils ont dominé auparavant. Ils ont pris une branlée contre les All Blacks au mois de novembre. Pendant 50 minutes à domicile, ils ont été en grande difficulté contre les Anglais. Au Pays de Galles, à la mi-temps, ils étaient menés de 8 points. Ils maîtrisent pas le rugby comme ils le maîtrisaient auparavant.
Donc ils sont largement prenables.
Ils sont prenables. Par contre, j'aurais bien aimé poser une question à Pierre. C'est quelles sont les conditions climatiques aujourd'hui? Parce que s'il y a la pluie ou pas la pluie, ça va quand même engendrer énormément de choses. Parce que la seule chose où les Irlandais nous sont vraiment supérieurs, c'est sur les duels aériens.
Ok, bah Pierre Thévenet en direct de Dublin.
Alors pour l'instant il ne pleut pas, c'est une bonne nouvelle, mais hier il a pas mal plu, ou en tout cas pleuviné toute l'après-midi, donc c'est très humide, mais pour l'instant il ne pleut pas, ils annoncent 50% de pluie dans l'après-midi, donc on verra bien, ça va être pile ou face, mais en tout cas c'est humide, Philippe.
Et puis moi je voudrais revenir, et Philippe on t'entendra aussi à ce sujet, sur ce que vient de nous dire Marc Madiot, c'est-à-dire que la question c'est de savoir est-ce que cette équipe est à un tournant de son histoire, et Marc nous dit attention, si on gagne pas... on va dans le mur, Fred Weiss.
Alors, pour que ça soit un tournant, il faut que la victoire ou la défaite ait eu une incidence. C'est-à-dire que si on gagne, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que cette équipe fait juste ce qu'elle doit faire. Parce que depuis le début, on me dit, moi qui suis un néophyte dans le rugby, on a la meilleure équipe du monde, on a la meilleure génération possible, on doit gagner. Donc, on va continuer à le dire si on gagne. Et on va gagner un trophée. Et finalement, j'ai écouté Philippe qui dit, l'échéance, c'est 2027. Donc, concrètement, c'est bien de gagner le tournoi à destination. Ça te met un petit peu en jambe. Mais leur échéance vraiment importante, c'est celle-là. Et super, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oui, on sait pas encore bien gagner les matchs importants. On sait pas encore, se transcender dans ce genre de match.
Mais
c'est pas grave parce que l'échéance, c'est voilà, 2027.
Ouais, mais là, on est quand même en train de perdre le fil.
Sauf que.
Inconsciemment, on perd le fil.
Le rugby a ce totem d'immunité. Je le dis depuis le début.
Ça fait 3 ans que t'as pas gagné contre les Irlandais. Mais c'est le moment de les gagner aussi.
Un grand match de rugby, évidemment, mais il n'y a aucune incidence, parce qu'il y a, et je le répète à chaque fois, on me tombe dessus à chaque fois, il y a un totem d'immunité sur le rugby, à chaque fois on trouve une excuse, on perd contre les Anglais, on dit, ah oui, mais quand même, aller gagner là-bas, c'est pas facile, sauf que t'as dominé la première mi-temps, tu dois gagner, tu dois faire la différence, t'es pas capable de le faire, à chaque fois qu'il y a un match important, on ne gagne pas, c'est juste une constante, moi ça me choque pas, on va continuer pareil, qu'on perde, qu'on gagne, ça sera exactement la même chose, sauf qu'on aura l'armoire à trophée, avec un trophée plus, peut-être.
Par contre, tu ne peux pas dire ça parce que bon, Fabien Galthié, il est dans son rôle, bien sûr, 80% de victoire. Il dit on est 80% de victoire, on s'améliore et tout. Mais Antoine Dupont, qui est son capitaine, 2 jours après, lui dit non, il y en a marre d'avoir 80% de victoire, on veut gagner des trophées. Donc tu t'aperçois que ces joueurs, ce groupe, ils veulent gagner, ils veulent soulever la coupe.
Non mais tout le monde veut gagner.
Dupont veut gagner, les autres, t'en es sûr?
Non mais tout le monde veut gagner, arrêtez, tout le monde veut gagner. Mais à un moment, on se rend compte des capacités de notre équipe et on est limité finalement. Et dès que ça devient difficile et sérieux, on n'arrive pas à répondre. Je suis désolé.
C'est quand même, moi je ne suis pas un immense spécialiste du rugby, je regarde les matchs comme beaucoup de Français, regarde l'équipe de France, etc. Et ça fait quelques années que je viens au GG. On est toujours sur la même sérénade.
On est
toujours dans la même sérénade.
Et pourquoi ça changerait?
On est toujours dans le match d'après. Exactement. On est toujours dans la compétition d'après. Et à un moment, il faut dire stop, aujourd'hui, vérité. Cet après-midi, c'est un moment de vérité pour l'équipe de France.
Mais je contre l'Angleterre là-bas, c'est pareil.
Mais on a repoussé chaque fois l'échéance, donc il est d'accord avec nous.
Aucune incidence parce que après, qu'est-ce qui va se passer? Marc sera énervé, mais le reste de la population ne dira rien. Il va rien se passer. Ça va être comme la vie
des
gentils. Marc, tu as raison. Je pense que c'est exactement l'état d'esprit qu'on doit avoir, voilà. Ce que c'est pas l'état d'esprit qui existe.
L'ancien sélectionneur Philippe Saint-André sur le totem d'immunité, c'est ce que vous dites du rugby, c'est-à-dire qu'on et franchement Marc, on se le disait juste avant l'antenne, ça fait 5 ans qu'on fait cette émission les deux et c'est vrai qu'on pense toujours au coup d'après. Et pour aucune nation, c'est possible. Pour aucune nation, on se dit, oh non, mais dans 2 ans, vous inquiétez pas, il y a l'euro.
On pourrait faire un petit comparatif avec le foot. Hein.
Mais oui.
Imaginez Deschamps dans la même situation.
Non, mais avec tous les autres.
Il aurait déjà été guillotiné.
On dit qu'on a la meilleure génération depuis pratiquement l'histoire du rugby français. Donc, quand tu as la meilleure génération, ben, tu attends maintenant des victoires.
Mais on attend depuis longtemps, en fait, oui. Philippe, c'est ce que je t'explique. Non, il y a plus longtemps qu'on le vend et il se passe rien.
Eh ben, il se passe rien. C'est pour ça que ce match aujourd'hui est très important, non pas dans la construction de ce groupe, parce que ce groupe, il est construit. Maintenant, ce groupe a de la maturité. Alors après, on en parlera. Fabien Galthié fait all-in en faisant 7 avants sur le banc. Mais maintenant, il faut gagner, il faut arriver en Australie en étant la meilleure équipe européenne et en étant l'équipe favorite avec les All Blacks.
Philippe, on m'a vendu ça pour la Coupe du Monde en 2023. On m'a dit la même chose. On est la meilleure équipe. Maintenant, il faut qu'on gagne la Coupe du Monde.
Sur la Coupe du Monde, sincèrement, oui, on était à domicile. Par contre, on jouait contre une génération des Sud-Africains. Ils avaient 32-33 ans de moyenne d'âge. Ils avaient une 60 sélections. Ils étaient vraiment à leur apogée. Ils savaient gagner. Là, cette génération qu'on a de joueurs maintenant, ils ont le nombre de caps, ils ont ces 50, 60 sélections.
Mais ils ne savent pas gagner. Hein.
Et ben oui, mais maintenant, ils devraient avoir l'expérience, la maturité, le leadership, par exemple, d'Antoine Dupont, de Ramos, pour maintenant gagner ce genre de match. Et c'est pour ça que ce match cet après-midi est très important.
Ok, c'est maintenant qu'il faut gagner. Simon Dutin voulait prendre la parole. On poursuit la discussion dans quelques instants. On retrouvera aussi Pierre Thévenet en direct de Dublin. Restez bien avec nous. Une émission largement consacrée à cette Irlande-France, mais il y aura d'autres débats. Évidemment, on vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h33 de retour dans Les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi. À partir de 10h, on ouvre le dossier Paulo Fonseca. Peut-on encore entraîner dans ces conditions-là? Ce sera un 2 contre 2 et ce sera le bras de fer des GG. Mais restons un instant sur cette Irlande-France. C'est notre première question ce matin. Et c'est un tournant dans l'histoire de cette équipe. Hervé arrive dans quelques instants au 32-16. Pierre Thévenet est toujours avec nous en direct de Dublin. Pierre, on se pose la question. Tu as entendu nos échanges. C'est vrai que l'idée du tournant fait sens, surtout quand on sait que le prochain gros match pour cette équipe de France, c'est peut-être dans un an avec le tournoi Destination.
Il y aura un France-Afrique du Sud en novembre qui va quand même valoir cher pour la symbolique, mais c'est vrai que le prochain match à enjeu, ça sera dans le prochain tournoi. Donc on parle beaucoup de cet horizon 2027 de la Coupe du Monde en Australie qui doit être le point d'orgue du deuxième mandat de Fabien Galthié. Mais c'est vrai que ce tournoi est très important pour basculer du bon côté. En gagnant en Irlande, on se met dans une bonne position de gagner le tournoi et on réenclenche une dynamique positive après l'année dernière qui a été très compliquée. Là, en cas de défaite en Irlande, je disais tout à l'heure, c'est quasiment troisième place maximum. Gros échec après les quatre deuxièmes places qu'on vient de vivre et la victoire. Et derrière, il faut attendre quasiment un an avant de retrouver des matchs intéressants. Donc là, l'objectif, c'est gagner en Irlande, gagner le tournoi pour s'orienter aussi vers un grand chelem l'année prochaine, en année paire où on recevra à trois reprises.
Simon, tu voulais répondre à Philippe notamment.
Oui, pour dire qu'en fait c'est le paradoxe d'un rugby qui se mondialise avec la Coupe du Monde qui, il y a 20 ans, la Coupe du Monde elle n'avait pas autant d'importance. Et le tournoi en avait énormément à l'époque où ça se jouait à 5, notamment 5 équipes. Donc gagner dans le tournoi, ça voulait dire quelque chose. J'ai l'impression qu'on a dévalué un petit peu et c'est à mesure que le rugby a fait de nouveaux adeptes.
Que c'est la préparation.
C'est-à-dire que l'année après la Coupe du Monde, les mecs se reposent et donc ils sont pas là. Donc tu comprends, le tournoi, le résultat, il est un petit peu secondaire. L'année avant la Coupe du Monde. L'objectif c'est la Coupe du Monde, donc ça sert de préparation. Donc t'as deux tournois qui comptent finalement entre deux Coupes du Monde.
Je vais même aller plus loin maintenant quand t'as des JO.
Je sais pas dans la perception des gens qui aiment le rugby le week-end, mais.
Non, ce qui est pire encore, c'est qu'à notre époque, moi j'ai joué le 5 Nations, mais les tournées du mois de juin était très importante.
On partait
7-8 semaines. Moi, sûrement mon plus beau souvenir en tant que joueur capitaine, c'est la double victoire en Nouvelle-Zélande en 94. Mais on y allait avec les grosses équipes. Maintenant, au mois de juin, on envoie les jeunes. Donc, tu as quoi? Tu as le 6 Nations qui est important et les tests de novembre. Et c'est pour cela que ce match aujourd'hui est très important.
Eh ben, quand Philippe s'entendrait, tu vois, finis la phrase que t'allais commencer, t'allais larmes aux yeux, tu vois, c'est que t'es à peu près dans le vrai. Mais non, mais tu le soulignes, c'est-à-dire que la tournée, maintenant, c'est, on va essayer des mecs, on verra s'ils ont le potentiel pour revenir l'année prochaine. Donc, en fait, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on gagne pas le tournoi, en effet, Pierrot l'a dit tout à l'heure, l'an prochain, on jouera l'Angleterre, l'Irlande à domicile. Et là, en effet, t'as envie qu'on fasse le grand chelem et tu te dis, bon, voilà, si.
Ça veut dire quoi? Si l'année prochaine, si tu gagnes pas le tournoi, c'est pas bien.
Je pense qu'en effet, il y aura plus de raisons parce que, encore une fois, il y a un chantier, et là, c'est Fabien Galthié qui a tout fait voler en éclats, et ça, ça me dépasse. Il y a un chantier à l'arrière, alors qu'on pensait avoir des certitudes. Il y a un chantier à l'aile, alors qu'on pensait avoir le meilleur ailier du monde. On avait le meilleur numéro 8 du monde. Bon, finalement, il a traversé quasiment un an de disette. On ne sait pas, il n'a pas été vraiment bien soutenu, je trouve, par son sélectionneur. Voilà, on a des certitudes devant, mais encore une fois, on se met à encaisser des points depuis 2 ans alors que notre force, c'était la défense. Donc oui, si on finit 3e du tournoi, je serais pas plus inquiet que ça pour cette équipe.
Mais t'es jamais inquiet en fait.
Bah, c'est, je te dis, c'est le paradoxe de ce rugby qui,
c'est bon, l'immunité années, du rugby à 5 mois, tu reprends.
Mais non, mais là, je suis d'accord, tout va bien. Mais là, je suis d'accord avec toi.
Peut-être,
je suis d'accord avec toi, ça manque d'échéance. Ça manque d'échéance, ça manque de trop
faire. L'année prochaine, tu feras le même, débat, alors qu'on devra jouer ce 6 nations avec 3 matchs à la maison, et malgré ça, on dira, ouais, mais c'est pas grave, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, et là, on sera bon. Non, à force, avant de repartir tout le temps, c'est épuisant, il faut gagner, effectivement, mais malheureusement, à chaque fois qu'on ne gagne pas, il n'y a rien.
Fred, tu te trompes, c'est pas dans un an, on va faire ça la semaine prochaine.
Pour France-Écosse, alors, le sujet va être de nouveau sur la table.
Déjà, j'espère que d'ici là, on aura gagné en Irlande et qu'on se retrouvera la semaine prochaine.
Alors, justement, on perd en Irlande cet après-midi.
Oui.
Tu fais quoi la semaine prochaine au GG pour
le samedi matin?
Ouais.
Le France-Écosse, je pense qu'il fait. Faut-il remettre en question Fabien Gattier? Je pense.
Mais si on gagne cet après-midi,
si tu veux le conducteur en avant,
si on gagne cet après-midi, c'est une défaite face à l'Écosse, serait-elle catastrophique?
Voilà.
Remettrait tout.
Ok. On est en train de faire les prochains conducteurs. Moi, ça me dérange pas en direct.
Si je peux aider, moi,
on parlera d'une vraie finale.
Si on gagne,
exactement.
Voilà. Là, ça le sera sens, face à l'Écosse. Des affaires.
Et d'ailleurs, si vous voulez remporter vos places, hein, c'est toujours rugby au 7-32-16, rugby au 7-32-16 pour gagner vos places pour France-Écosse samedi soir prochain à 21h au Stade de France. Hervé nous appelle au 32-16. Salut Hervé.
Bonjour les copains.
Salut Hervé. Bonjour.
Bon, t'es dans quel camp Hervé? Est-ce un tournant dans l'histoire de cette équipe?
Non, pour moi, c'est pas du tout un tournant. Je pense qu'on n'apprend pas assez de nos erreurs. On a gagné un grand chelem 2 ans avant la Coupe du Monde 2023. Ça y est, on était prêts, on était formatés pour gagner cette Coupe du Monde et on sait ce qu'il en est derrière. J'aimerais qu'on parte d'un peu moins loin pour la prochaine Coupe du Monde, qu'on arrête de se projeter 3 ans avant, qu'on construise quelque chose, on a un nouveau staff, on a de nouveaux joueurs aussi qui intègrent cette équipe. Donc le match aujourd'hui, oui, il est important parce qu'il y a quand même un titre au bout, mais de là, aller se projeter dans 3 ans sur la Coupe du Monde, je trouve que c'est quand même un peu loin et je pense qu'on a assez fait des erreurs comme ça dans le passé. Il faut y aller progressivement. On a un grand chelem l'année prochaine à faire, certainement, vu qu'on a trois réceptions à domicile. Mais déjà, de faire une belle prestation contre l'Irlande, même si on perd que d'un point, ça sera déjà beaucoup. On a une part de centre qui est un peu inédite. On les voit que depuis 2-3 week-ends. On a aussi des joueurs devant, mais à fou, qui a intégré l'équipe de France après la Coupe du Monde. C'est en construction, tout ça, l'effectif, le staff aussi.
Non mais Hervé, on est toujours en construction, on cherche toujours une excuse. À un moment, la construction, elle s'arrête. Parce que à un moment, il faut que les fondations soient mises, il faut que la construction s'arrête et que tu gagnes des choses.
Mais là, t'as déjà fait quelques étages.
Mais c'est pas suffisant parce que même si on perd, même Hervé qui écoute, qui suit le rugby, ça ne choquerait pas.
Peut-être, mais là où je peux donner un point à Hervé quand même, et je me tourne vers Philippe, c'est que, souvenez-vous, en 2022... On gagne le tournoi des 6 nations, on se dit ça y est, on est prêt. On est 1 an et demi de la Coupe du Monde, on se dit c'est bon, on roule sur tout le monde, on est prêt. Et au final, on s'est rendu compte qu'on était peut-être prêt 1 an trop tôt. Parce que le 2023, on ne gagne pas. Est-ce que cette idée, cette hypothèse est entendable?
On sera très mauvais en 2026, d'abord, je te le garantis.
D'abord, on oublie que 2022, quand on fait le Grand Chelem, c'est l'année Covid. Et nos joueurs avaient beaucoup moins joué que d'habitude. Donc c'était une année qui était complètement différente. Après, sincèrement, on a des nouveaux joueurs, mais il y a quand même 80% de l'ossature de la Coupe du Monde en France, de la défaite contre l'Afrique du Sud. Alors oui, on a certains joueurs qui sont nouveaux, mais c'est normal. Mais Afou qui va et qui sûrement sera un des meilleurs secondes lignes au monde. Mais sincèrement, cette équipe, voilà, elle a de l'expérience, elle a de la bouteille, elle a du vécu. Et ce match en Irlande, moi, je pense vraiment qu'on est capable de les matcher cet après-midi et on est capable de gagner parce que on a les joueurs. Alors après, on parle de la défense, mais on est en train de changer de jeu, on est en train de plus créer, d'avoir plus de possession, de conserver beaucoup plus le ballon. On l'a montré contre l'Angleterre et contre l'Italie. Et j'espère que contre l'Irlande, on va faire exactement, parce que les Irlandais, il ne faut pas leur donner de ballon. Sincèrement, eux, dès qu'ils touchent le ballon, ils le conservent 25-30 ans de jeu et ils te mettent à la faute. Donc il faut vraiment qu'on construise notre jeu et qu'on soit aussi ambitieux qu'on l'a été à Twickenham et contre l'Italie.
Justement, ne pas se mettre à la faute, on reparlera à 11h de l'arbitrage et de cette sortie cette semaine de Fabien Galthié qui a justement mis la pression sur les arbitres. Merci beaucoup Hervé, t'es confiant pour ce soir? Enfin, pour cet après-midi, 15h15?
Ouais, je suis confiant dans le sens où on a quand même des clubs en France comme Toulouse et La Rochelle qui ont réussi à gagner le Leinster plus régulièrement. Donc, vu que cette équipe de France est quand même bien constituée de Toulousains, Rochelais, Bordelais, je pense quand même qu'on a les clés pour gagner ces équipes-là maintenant. Donc, c'est quand même un plus.
Parfait. Hervé, merci beaucoup. Merci de ta fidélité. Je te donne le rendez-vous. C'est à partir de 14h, l'émission spéciale, l'événement sur RMC, 14h en direct de Dublin avec Christophe Cessieux, avec Wilfried Templier, avec Pierre Thévenet, avec Denis Charvet, toute la team rugby est là-bas à la Viva Stadium. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. On te retrouvera évidemment demain pour débriefer cette rencontre. Nous, on se retrouve dans quelques instants. On s'en fout pas. Et notamment, les copains, j'espère que je vais avoir le temps d'en parler. La plus grande triche dans l'histoire du MMA. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu cette information, mais elle est absolument sublime. Restez bien avec nous. Je vous dis tout dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h46, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, Fred Weiss, Philippe Saint-André, Marc Madio. À partir de 10h, on ouvre le dossier Paolo Fonseca, lourdement suspendu, vous le savez, cette semaine. Peut-on encore entraîner dans ces conditions? Là, j'attends évidemment votre expertise, parce que certains ont été managers, le sont toujours, sportifs de haut niveau. Donc, on vous attend évidemment sur ce dossier. Ce sera le bras de fer et c'est un 2 contre 2. Vous n'êtes pas d'accord, les grandes gueules du sport. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Vous connaissez le principe. Première information à vous donner, c'est l'arrivée du dernier du Vendée Globe. On s'en fout pas. Marc Madio.
On s'en fout surtout pas.
Surtout pas. Philippe pas. Saint-André. Aussi, c'est pareil.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Ok les copains, alors si ça vous intéresse, on y va. La semaine dernière, je vous racontais en tout cas cette histoire, le skipper belge Dennis Van Den Berg, tout dernier concurrent de l'Everest des mers, allait franchir la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne le samedi matin, après sa clôture officielle. Et bien sachez qu'après 118 jours de course, le navigateur belge a terminé donc hors délai, la course étant arrêtée officiellement vendredi matin, conformément au règlement du Vendée Globe. Il est actuellement dans le chenal. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial en direct des Sables d'Olonne, c'est Mathéo Rollet. Salut Mathéo.
Salut JC, salut à tous.
Salut Mathéo.
Alors
salut.
Mathéo, salut. Il y a beaucoup de monde hein, venu voir le dernier et applaudir le dernier du Vendée Globe.
Ah, je peux vous dire qu'il y en a qui s'en foutent pas, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de Belges sur les bords du chenal ici au Sable d'Olonne. Alors, pour tout vous dire, on a eu un peu le mal de mer parce que ça agitait pas mal ce matin. Mais Dennis Van Den Berg a bien franchi la ligne d'arrivée. Enfin, si je puis dire. Mais bon, on n'était pas à quelques minutes près après 117 jours de course pour lui. Voilà, comme tu l'as dit, j'y sais beaucoup de monde sur les bords du chenal. Des fumigènes, en veux-tu, en voilà. En fait, il est un peu accueilli comme un vainqueur alors qu'il est bon dernier, mais c'est comme l'expression le dit, un très très bon dernier. Il y avait une affiche qui nous a un peu marqué ici, une banderole marquée par des supporters belges. Tu l'as fait, bravo Denis. C'est bon ça, le courage d'un marin, la force d'un aventurier. Et ces mots sont tout à fait justes, parce qu'il en aura fallu du courage pour lui, avec plein de problèmes techniques. Mais bon, la ligne d'arrivée est enfin franchie. Il va enfin pouvoir savourer. Il est le 33e arrivant de ce Vendée Globe, malgré une arrivée hors délai.
Et oui, d'arriver hors délai. Merci beaucoup Mathéo Rollet d'avoir été avec nous. On te retrouvera dans les différentes éditions, parce que le skipper qui ambitionnait d'être le premier belge de l'histoire à clore le tour du monde à la voile en solitaire et sans assistance, eh bien il ne sera pas classé. Il ne touchera pas la prime, mais bon, c'est peut-être pas ça le plus important, mais il ne sera pas classé. Donc il ne sera pas le premier belge de l'histoire à avoir terminé devant des globes, parce qu'il est arrivé un jour trop tard. Marc Madio.
Alors il peut toujours faire appel, il y a peut-être une commission d'appel pour la mise hors délai en compétition quand il y a des hors délais. Il arrive parfois qu'il y ait une certaine clémence parmi les commissaires, donc il faudrait bien relire le règlement.
Tu veux la clémence, toi, en tout cas?
Moi, je serais clément, parce que un tour du monde, c'est pas une compétition banale. C'est un engagement exceptionnel. Et tout ce temps, tout cet engagement, tout ce travail, toute cette volonté pour se faire signifier à l'arrivée qu'on est hors délai, c'est un peu lourd, un peu dur.
Je pense évidemment le contraire. je pense évidemment le contraire, parce que c'est, j'imagine que c'est un grand, grand sportif. C'est quelqu'un qui a envie de relever des challenges. Et à partir de là, si t'es hors délai, t'es hors délai. Donc t'as pas fait le truc. Reviens, fais-le dans le délai. Et là, tu pourrais faire de toi. Moi, je pense que un sportif qui a vraiment cette âme de sportif et qui décide de dire, ah oh, bah, je vais faire appel. Moi, je trouve ça d'une tristesse absolue.
Fred, tu ne peux pas dire ça. Le mec, il reste 117, 118 jours dans son bateau.
Il a des problèmes, il arrive, il y a
un monde de fous, c'est un aventurier, il a des coronavirus comme ça, et toi tu dis ils vont rien du tout.
Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, j'ai pas dit qu'il fallait les règles, mais non, tout simplement tu respectes pas les règles de la cour.
Attends, il faut mieux attendre ça qu'être sourd.
Mais non, en fait, c'est très facile de dire quelque chose que je n'ai pas dit. J'ai pas du tout dit qu'il valait rien, j'ai dit que c'était extraordinaire ce qu'il avait fait, sauf que je n'ai pas d'ordre et qu'il l'a. Il y a une date butoir, il y a une heure butoir, c'est comme ça, c'est la vie.
Il pourrait lui refuser le droit d'apponter au Sable d'Olonne, tu vois. Désolé, non, gros,
c'est la vie.
Trouve-toi une petite crique là pour débarquer.
Retourne du côté de la panne avec ton bateau.
Reviens dans 4 ans si tu
veux. Vous avez perdu la chispa, comme disent les Espagnols.
Reviens dans 4 ans si tu trouves un budget pour revenir dans 4 ans.
En fait, c'est pour ça qu'ils ont mis des règles pour les respecter. Si tu veux,
pas Fred, il a aucun cœur.
Non,
mais c'est ça
que tu as fait.
Marc Madio. Sérieusement, ça serait quand même intéressant de savoir comment ont été calculés les délais. Est-ce qu'ils sont calculés par rapport au temps du vainqueur ou est-ce que c'est un délai qui a été fixé avant le départ?
Par rapport à la dernière course il y a 4 ans. Ouais, c'est ce que j'ai entendu.
Mais c'est pas très logique ça. Je pense qu'il faudrait calculer par rapport au temps du vainqueur.
Mais même pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes bateaux.
Non, mais attends, ils ont les mêmes bateaux.
Non, ils ont. Ah bah non, rien à voir.
Il y a des bateaux différents.
Lui, il a fini en pédalo. Il avait une paire de rames, même au cœur.
Il a fini en pédalo.
Non, on va arrêter.
Non, mais
on va pas se
foutre.
Un peu plus sérieusement, j'y sais, tu pointes le règlement technique.
Ben oui.
Ok, il existe. Mais tu vois, le Vendée Globe, on nous vend quand même le narratif, ouais. L'homme face à la mer, tout ça, le défi, l'aventure.
Le sportif n'a plus de place.
Excuse-moi, on t'explique que les histoires de mecs qui se déroutent pour aider leurs copains, machin, c'est plus important finalement que la performance et tout. Et le gars qui s'est pelé 117 jours tout seul sur son radio, qui arrive en lui disant, désolé gros, tu seras même pas dans le classement.
Ben c'est oui, parce qu'il y a une date, il y a une heure.
Non, et tu vois,
en fait, il le savait dès le départ. C'est pas comme,
c'est comme si une fine, le public ne s'y trompe pas.
Voilà, c'est ce que j'avais dit.
Voilà, c'est pour ça que ça va être blindé toute la journée.
Mais
c'est normal.
Ok, juste, t'avais déjà cité une marque de préservatif le week-end dernier. Donc le Duralex, je sais pas quoi. Là, t'es pas obligé de d'y remettre un coup. Deuxième information dans le zapping des GG à vous parler, c'est la plus grande triche de l'histoire du MMA. On s'en fout pas. Simon Dutin.
Je m'en fous.
Oh !
Non mais c'est pour laisser la place à mes copains. C'est pour pas vampiriser la parole.
Fred Veil.
Ah, je m'en fous pas.
Ah mais... merci.
Moi je veux savoir.
Ah ok.
Bah moi aussi, mais
qu'est-ce que
moi,
ça t'intéresse ? Heureusement qu'il y en a qui t'intéressent, hein, parce que là, c'est vraiment incroyable ce que je vais voir.
Non, mais le MMA, j'ai du mal.
Oui, mais écoute bien l'histoire, parce que c'est l'histoire qui est intéressante. Il s'appelle Joshua Amberg et il a participé à un tournoi de MMA en Allemagne, les GMC Olympics. D'ailleurs, il a même fait mieux que participer au tournoi, parce qu'il a tout simplement gagné. Sauf que quelques jours plus tard, l'Allemand a été disqualifié. Alors, pour quelle raison? Eh bien, sachez, mes GG et vous, chers auditeurs, qu'après sa demi-finale, eh bien, il a envoyé son frère jumeau au feu pour la finale.
Ah, elle est bonne celle-là.
Mais dans une vidéo diffusée mardi sur les réseaux sociaux, le patron de l'organisation allemande a dévoilé le poteau rose au monde entier et dénoncé la tricherie. Voici ce qu'il dit. Le plus gros scandale de l'histoire a eu lieu ici même. À droite sur la photo, le participant au tournoi. À gauche, son frère jumeau. Impossible de les distinguer. Il rajoute voici le scandale. Joshua Amberg est le participant. Il gagne sa demi-finale au point après 3 rondes. Et 2 heures plus tard, en finale, des tatouages sur son corps sont apparus. En finale, son frère jumeau, Jérémiaz, entre sur le ring. Il remporte le combat sur un high kick et devient champion. Alors sachez que, donc vous l'avez bien compris, l'organisateur GMC a découvert cette histoire grâce au tatouage de Jeremias, différent de ceux de son frère jumeau Joshua, en particulier celui situé sur le torse au niveau du cœur. Le tatouage est différent.
C'est quand même pas du génie.
Qu'ils ont découvert la triche. Voici ce qu'il rajoute, l'organisateur. Son coach s'est précipité et a caché son épaule avec une serviette. Une dernière information à vous donner. Sachez que le frère, donc celui qui a remporté la demi-finale, Joshua Humbert, qui était donc qualifié pour ce tournoi, il est même entré dans la cage après la victoire de son frère, vêtu d'un sweat à capuche. Comment vous voulez réagir?
C'est énorme, c'est incroyable.
C'est incroyable.
C'est quand même un peu les pieds nickelés. Hein.
Oui, c'est-à-dire que l'idée est bonne de base. Tu te dis, tu peux essayer de bouger comme ça, mais tu te rends pas compte que t'as pas les mêmes tatous et que les gens vont s'en rendre compte. Moi, je trouve ça incroyable.
L'histoire est folle. Tu le fais au baccalauréat.
Oui, voilà, c'est ça.
Pour les maths ou pour les.
Non, mais t'avais pas eu besoin d'un frère jumeau de Thibaut Pinot, par exemple, pour t'envoyer un sur une course, l'autre sur l'autre, pour gagner le Tour de France, non? Ça ne serait pas venu à l'idée, franchement, si Thibaut Pinot avait un jumeau.
C'est pas venu à l'idée, mais.
Non, mais imagine, Thibaut Pinot, il a un jumeau. Tu dis, bon, ils se ressemblent vraiment. Franchement, c'est les mêmes, ils ont les mêmes aptitudes.
Tu peux y penser, mais c'est injouable. Mais ce que je comprends pas, là, c'est qu'ils avaient presque tous les éléments pour parvenir à leur souhait de résultat. À leur fin, et en fait, ils l'ont un peu galvaudé tout seul, là, avec des tatouages, quoi.
Ne faites pas de tatouages, les gars, si vous voulez tricher.
Bah ouais. Ou alors faites le même.
Ou faites le même, ouais, t'as bien raison. Bon, voilà, c'était important et c'était marrant de vous donner cette information aujourd'hui dans les grandes gueules du sport. Exactement. On se retrouve dans quelques instants pour parler de Paulo Fonseca. Peut-on encore entraîner dans ces conditions? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.